Le sport. Tous les sports. CFM.
Lundi Sport, bonjour, avec dans nos studios ici à Montauban, Jennings Darcourt, salut.
Bonjour tout le monde.
Aurélien est à la manette, ça va Aurélien?
Ça va très bien, salut tout le monde.
De l'autre côté, à Caylus, un petit peu plus vers l'est, il y a Jean-Claude Desfarges avec nous, salut Jean-Claude.
Salut tout le monde, bonjour à tous.
Et encore plus loin vers l'est, à Rodez, dans le froid hivernal, où paraît-il, il a grêlé et fait des giboulées de neige hier. Il y a David Dumont, Jean-Claude de Vigroux et le Fada, David Fabier. Salut les gars.
Bonsoir à tous.
Salut Rémi, bonsoir à tous.
Bonsoir tout le monde.
Alors, connaissez-vous un sport collaboratif, auto-arbitré, dont la vocation principale est de mettre en avant le respect de son adversaire? Vous connaissez pas? Ah non, c'est pas le foot, hein. Je vous rassure de suite, c'est même pas le rugby. C'est simplement l'ultimate frisbee. Et on va s'intéresser à ce sport qui grimpe, ici en Europe et qui nous vient des États-Unis, au travers d'un club ruthénois, monsieur, dame. Oui, on fait de l'ultimate frisbee à Rodez. Et on en parle aujourd'hui parce que c'est les débuts du championnat qui va se dérouler durant toute cette année. On s'intéressera aussi à un autre drôle de championnat, puisqu'il s'agira du championnat de dameuse, championnat de France de dameuse, oui monsieur dame, à Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées ce week-end. Il y a les meilleurs pilotes de dameuse, vous savez, ces mecs qui préparent les pistes, qui vont se réunir, les meilleurs pilotes qui vont s'affronter, et à la clé bien sûr il y aura le champion de France. Et pour la station, eh bien ils pourront, parce que c'est sponsorisé par une marque, une grande marque de dameuse, ils pourront avoir gratuitement pendant un moi, la dameuse qui tue. Voilà. football international et national, rugby, e-tout et bien d'autres sports vont être abordés pendant cette heure que nous passons ensemble. Et on commence par le football.
Et toujours le Paris Saint-Germain qui caracole en tête, qui se détache même avec 10 points d'avance. Le Paris Saint-Germain qui est allé gagner à Lorient petitement grâce à un but de Thiago Motta. Mais ils tiennent bien la route. Ils sont donc en tête. Monaco est second avec 10 points de retard. Monaco qui, sur son terrain, a fait match nul avec Lille, un but partout. Lille donc est troisième, quatrième Saint-Étienne qui a gagné sur son terrain face à Sochaux par 3-1, et Lyon qui revient bien est allé gagner à Guingamp par 1-0. Lyon est donc à la cinquième place. Hélas pour les Marseillais de l'OM qui se sont fait étrier sur leur terrain par l'équipe de Rennes 1-0. Donc Marseille se retrouve à la sixième place. On trouve en fin de classement Valenciennes, Sochaux et Ajaccio qui vont se jouer entre la relégation. Il est vrai que non plus Evian-Tonon n'est pas très bien placé, mais le championnat n'est pas terminé. Voilà pour la Ligue 1 du championnat de France.
De football.
D'ailleurs, parce que c'est aussi ce week-end, enfin au début du week-end, c'était vendredi, il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions. Chelsea, Jennings, on rappelle que tu es supporter du PSG, content, pas content?
Ben écoute, ça aurait été le Bayern, Bayern, Barcelone et tout, j'aurais été un peu moins content, mais je me méfie quand même, parce que à ce stade de la compétition, on est en quart, je te rappelle, et ouais. En quart, tout peut arriver, donc... Chelsea, que ce soit Chelsea, United ou quoi, pour moi, il y a pas de bon ou mauvais tirage. Le seul truc positif, entre guillemets, c'est que Paris, pour moi, je trouve, va jouer à domicile, au premier match. Au match aller, ouais. Et ça peut être un petit avantage. C'est-à-dire que si Paris, par exemple, gagne 2-0 à domicile, ça peut leur permettre déjà d'avoir deux buts d'avance, mais en plus que s'ils marquent à l'extérieur au match retour, ça oblige Chelsea à marquer 4, donc pour moi c'est...
Chelsea sont capables, ils en ont mis 6 ce week-end à Arsenal, hein,
ouais,
ils sont capables d'en mettre 4, il n'y a pas de soucis.
Oui, ils peuvent mettre 2-0 à l'aller, quoi.
Bon, et, voilà. Puis, c'est surtout... et si Paris veut aller en demi-finale, il ne faut pas rater le quart.
Oh, bravo.
vous êtes informé. Hein.
Ah bah oui, bah tiens, directement, on passe au rugby, directement. Allez, on enchaîne avec Jean-Claude Defarge pour les résultats top 14 Pro D2.
Oui, alors top 14, la 22e journée était très intéressante en haut de classement et en, aussi en bas de classement. Bon, le fait officiel de cette 22e journée, c'est que Biarritz est effectivement relégué en Pro D2. Biarritz a été perdre à Perpignan par 16 à 10, le match qu'il fallait pas perdre. Donc, les amis Biarro de Serge Blanco joueront l'année prochaine, peut-être avec Montauban, peut-être avec Albi. Enfin, de toute façon, le BO est en Pro D2. Il y avait des chocs aussi en haut de classement. Les leaders, les deux cadors, Clermont et Toulon, se rencontraient à Michelin. Clermont a remporté ce match avec la trouille au ventre, en gagnant en toute fin de match par 22 à 16. Les Clermontois confortent ainsi leur première place. Bègles-Bordeaux est allé gagner à Bayonne par 23-22. Les Bayonnais sont comme les Biarro en fin de classement. Le Racing Métro est allé gagner à Grenoble par 26 à 13. Le Racing se replace à la qualif. Montpellier est allé gagner à Oyonnax. Montpellier se replace aussi pour la qualif. Et enfin, gros match au Stade de France entre le Stade français et Toulouse. Il faut savoir qu'à la mi-temps, le Stade français menait 27 à 8 et que les Toulousains, au courage, sont revenus dans les arrêts de jeu en faisant un match nul mérité par 27 à 27. Au classement du top 14, on trouve premier Clermont, deuxième Toulon. Suivent derrière pour jouer les barrages Montpellier, Castres, le Stade français et Toulouse. Et en fin de classement, vont jouer pour la descente Bayonne, Oyonnax et Biarritz. Il y avait aussi, on joue aussi la 24e journée de Pro D2. Alors en Pro D2, c'était une journée aussi où on a décrété que le roi c'était Lyon. Donc on peut dire que le roi Lyon est en tête du championnat en ayant gagné largement contre Aurillac par 45 à 16. Agen est allé gagner à Carcassonne par 26 à 12. Les Agenais se replacent pour la qualif, mais par contre Carcassonne prend la dernière place du classement. La Rochelle a battu Béziers par 27 à 7. La Rochelle est co-leader de ce classement. Et il y avait aussi un gros match à Albi où Albi jouait son maintien en Pro D2. Albi recevait Dax et a gagné ce match largement par 36 à 5. Il faut savoir qu'à la 80e minute, à la sirène, il y avait encore 36 à 0. Et les Dacois ont sauvé l'honneur juste après le coup de sifflet final. Donc, j'ai fait un petit interview en fin de match de l'homme du match, César Damiani, qui s'est très gravement blessé, et aussi du marqueur du 5e essai à Albi.
Oui, je suis César Diabani, l'homme du match aujourd'hui. Gros match.
Oui, gros match. On avait à cœur de se rattraper après le faux pas dans l'engagement qu'on a fait à Béziers. Suite à deux belles victoires à domicile, on a envie de se relancer au classement et d'assurer un peu plus notre maintien, ces choses faites.
Tu as fait un gros match en touche. Hein. Tu l'auras piqué combien de balles?
Je sais pas. On avait à cœur aussi justement dans la conquête de les contrer au maximum. Ça s'est bien passé ce soir, mais bon, la vérité, c'est chaque week-end se refait. Donc on va rebosser cette semaine pour bien préparer le prochain match.
Et ton épaule?
On va passer les examens demain. J'ai senti bien craquer, donc j'espère que c'est pas grand-chose et que je pourrai retrouver les copains le plus vite possible.
C'est bien, bon ben, n'oublie pas, t'es l'homme du match aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est gentil, merci.
Merci. Gabriel Lacroix, auteur du 5e essai. Raconte-nous ton 5e essai.
C'est un essai collectif, on est bien devant, on avance. C'est une bonne phase de jeu, on est bien dans l'avancée. Avec une bonne mêlée donc. Et voilà, Samuel Marquez qui décide de partir petit côté et qui m'offre l'essai avec un coup de pied donné impeccablement. Et voilà, j'ai plus qu'à courir et attraper le ballon quoi.
C'est bien, alors 36 à 5, 5 essais, aujourd'hui carton plein. Alors.
Dédicace à Emeline, Gabriel.
Ouais, c'est un très bon match, on avait à cœur de faire un gros match devant notre public après la culottée qu'on a reçue à Béziers. Donc voilà. On avait à cœur de faire un bon match et je crois que c'est fait.
Dax a pris l'eau,
c'est vrai qu'on est rentré avec des ambitions, on est bien rentré dans ce match. Et après, voilà, pour une fois, on n'a pas eu de coup de mou et voilà, on sent qu'il y a une vraie équipe bien soudée. Voilà.
Félicitations.
Ouais, merci.
Fin de ce reportage. D'autres infos sur le rugby Est-ce que tu peux nous dire par exemple qui est cette Emeline? Il y a une spéciale dédicace à Emeline.
Eh ben, Emeline, c'est la capitaine des abeilles qu'on a eue l'année dernière. Rappelle-toi, qui était pom-pom girl d'Albi, qui sont championnes de France, tu te rappelles?
D'accord. Ben oui, mais écoute, j'avais eu son 06, j'arrête pas de lui envoyer des messages, elle répond pas alors. Non, je blague évidemment.
Elles sont parties faire la finale du championnat de France des Pop-Up Girls du côté de Lourdes par là-bas, je sais plus où.
Ah, mais c'est pour ça.
Pourquoi on n'y va pas, nous, sur des trucs comme ça, là? On va voir des matchs de rugby. Moi, je vais bien aller voir le truc des abeilles. Là. Je vais faire le frelon, moi. Je vais bien y aller.
Y a-t-il eu un miracle à Lourdes?
Pardon?
Y a-t-il eu un miracle à Lourdes?
Je sais pas, abeilles. Mais Lourdes, en rugby, est en train de descendre en honneur. Alors, je sais pas s'il y a un miracle. Hein.
Il y a plus de flotte à la source.
Classement de la Pro D2, quand même.
Allez.
Alors, le Roi Lyon est en tête. Deuxième, La Rochelle. Troisième, Agen. Quatrième, Pau. Cinquième, Narbonne. Et en fin de classement, Bourg-en-Bresse, Auch et Carcassonne. Ouh, ça pue la descente en fédéral.
Eh ben, un petit peu de pub. Et puis, on parle d'Ultimate Frisbee dans un instant avec notamment Xavier Cotel, qui est membre du club Ultima Rhodes.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2. Programmation de folie du 3 au 6 avril à Gaillac avec les petits bouchons, Julien Doré, La Rue qui est à nous, le bar à Yves Jamais ou Maxime Le Forestier et de très bons artistes découvertes. Les petits bouchons, ce sont aussi des concerts gratuits dans les vignobles et les lieux remarquables du pays gaillacois avec Hervé Suhubiette ou Tomislav. Le festival aime pas manquer? C'est les petits bouchons du 3 au 6 avril à Gaillac. Renseignements sur lespetitsbouchons.net. Les 4, 5 et 6 avril, c'est l'abbaye de Belle-Perche qui accueille l'association Gradier Venezia pour le salon Le Temps de la Création à Belle-Perche, thématique nationale des Journées Européennes des Métiers d'Art. 34 artisans d'art de l'Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, du Lot et du Tarn-et-Garonne, dans 23 métiers différents, vont exposer, expliquer leur savoir-faire et mettre en lumière toutes les étapes de leur travail. Le musée des arts de la table, avec ses collections, sera ouvert. Les 4, 5 et 6 avril, les métiers d'art sont à l'honneur à l'abbaye de Belle-Perche, entrée libre. Info sur journeedesmetiersd'art.fr. Les pépinières Ronchini à Nègrepelisse, c'est toujours des conseils, des idées originales, un choix exceptionnel de plus de 500 variétés d'arbres, d'arbustes, sur plus de 10 hectares. Les pépinières Ronchini à Nègrepelisse, c'est aussi la création, l'aménagement et l'entretien de vos parcs et jardins. Jean-Philippe Ronchini et son équipe dynamique vous accueillent tous les jours, du lundi au samedi.
Après la pluie, toujours le beau temps, aux pépinières Ronchini à Nègrepelisse. Venez chercher et planter vos idées pour que dans vos jardins, ce soit enfin le printemps.
Enfin le printemps, c'est le moment de s'occuper de son jardin, tailler, planter et prendre l'air. Mais vos déchets verts, vous en faites quoi? La communauté de communes du Quercy-Cossadet vous aide à faire un geste pour l'environnement en vous proposant un composteur individuel de 400 litres. Présentez-vous dans votre déchetterie avec un chèque de 15 euros et repartez avec votre composteur. C'est facile, économique et en réduisant d'un tiers vos ordures ménagères, vous aurez à disposition un engrais naturel pour votre jardin. Faites un geste pour l'environnement. Information communauté de communes Quercy-Cossadet ou dans votre déchetterie.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Lundi Sport, la suite avec maintenant eh bien un jeu qui est un jeu de sport quoi, hein. Eh ben si c'est un sport, si monsieur dame, mais il y a pas d'arbitre, on s'auto-arbitre dans ce sport-là. On est obligé de collaborer, on peut pas la jouer perso. Voilà, donc c'est un sport qui a
comme...
Hein ?
Un peu comme à la belote alors.
Un peu comme à la belote, mais quand tu les vois quand même courir sur un terrain, c'est quand même un tout petit peu plus énergique. Le Ultimate Frisbee, on en parle avec Xavier Cotel, qui est un gars du côté de chez vous, David Dumont.
Et oui, Xavier Cotel, qui est membre du club Ultima Rhodes, club d'Ultimate Frisbee, donc, qui va lancer sa saison outdoor, hein, puisqu'il paraît qu'on est au printemps. Donc, les pratiquants d'Ultimate Frisbee vont sortir et pour commencer leur compétition ce week-end, hein, en ce qui concerne Ultima Rhodes. En revanche, en ce qui concerne l'élite, on va en parler avec Xavier Cotel. Ça a débuté le week-end dernier. Bonsoir, Xavier.
Bonsoir à tous.
Bonjour, merci d'être avec nous dans Lundi Sport. C'est un sport qui vient des États-Unis, hein, je crois, hein, l'Ultimate Frisbee.
Ouais, c'est un sport qui a une petite vingtaine d'années, donc qui vient des États-Unis, un sport anglo-saxon, et qui s'exporte de plus en plus en Europe. Maintenant, il y a une petite centaine de clubs en France, et donc quelques-uns en Méditerranée, et on essaye de développer... avec le peu de clubs en Méditerranée, on essaye de développer cette discipline grâce notamment à la création d'un comité régional, donc d'une ligue qui est en cours de création, qui est en train de se finaliser. Donc grâce à celle-ci, on espère que même en Méditerranée, on pourra pratiquer l'Ultimate Frisbee dans la plupart des départements du Midi-Pyrénées.
Jusqu'à maintenant, il y a combien de clubs et d'équipes à travers la France?
Ouais, une centaine à travers la France. Et pour l'instant, ouais, Midi-Pyrénées, c'est très peu développé. Donc il y a Rodez, Toulouse, Pau et Tarbes. Bon, même si il y en a un des deux qui n'est pas en région Midi-Pyrénées, mais qui font une alliance. Donc pour l'instant, il y a que trois clubs. Il y en a un à Auch qui est en train d'essayer de se monter aussi. Mais c'est vrai que c'est assez entre guillemets pauvre pour notre grande région.
Et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place ou qu'est-ce que la fédération met en place pour faire découvrir ce sport justement et inciter les gens à vous rejoindre?
Alors justement là, donc la Fédé est en train de se structurer, hein, la FFDF, donc la Fédération de Flying Disc France, et donc au travers justement la création des comités régionaux d'Ultimate, on est en train de mettre en place des conventions avec l'INSS, avec le sport scolaire. On est en train nous de communiquer sur nos différents événementiels, comme là donc à venir le championnat de France, donc ce week-end, enfin le week-end qui est passé et le week-end qui arrive. Donc avant c'était un peu confiné, on faisait pas forcément d'affiches, voilà, alors que là maintenant on essaye de communiquer comme vraiment tout autre club ou tout autre sport pour faire parler de nous. Et on espère que ça va nous permettre de nous développer le plus rapidement possible.
James,
alors oui, au niveau des règles, quelles sont ces règles justement de ce sport?
Alors les règles, donc il y a deux championnats différents. Les deux sont distincts, on peut faire l'un comme l'autre indépendamment. Donc il y a un championnat intérieur, un championnat indoor et un championnat outdoor. Donc en intérieur, on joue à 5 contre 5 sur un terrain de hand, et en extérieur, on joue à 7 contre 7 sur un terrain donc aussi long qu'un terrain de foot, par contre un peu moins large qu'un terrain de foot. Les règles de ce sport sont un peu comme au football américain ou au rugby. Donc il faut aller au rugby, il faut aplatir le ballon dans la zone adverse. Nous, il faut qu'on aille attraper le frisbee dans la zone adverse. Et quand on a le frisbee dans les mains, on n'a pas le droit de marcher. C'est un sport sans contact. Le défenseur doit être à un diamètre de frisbee de nous. Donc il est vraiment à proximité de nous. Et il doit nous mettre la pression, entre guillemets, pour qu'on réalise une mauvaise passe à nos partenaires, quoi. En gros, c'est comme une passe à 10 avec le but d'aller vers l'avant et d'aller dans l'angle adverse.
Voilà. Et il n'y a pas d'arbitre.
Et voilà. Alors, c'est le seul sport au monde collectif à être sans arbitre, à être auto-arbitré. Donc, ça veut dire que s'il y a une faute à un moment donné, la discussion va se dérouler entre les deux joueurs, donc entre l'attaquant et le défenseur qui a fait faute. Et donc, les deux vont discuter entre eux. Ça prend pas une heure non plus, hein, mais
ça part à la pompe à chaque fois, mais sinon ça.
Discussion très aimable qui se fait. Si les deux joueurs sont d'accord, le frisbee, si le défenseur accepte sa faute, le frisbee repart. Donc tous les autres joueurs, sont immobilisés. Hein, pendant la discussion, ils n'ont pas le droit de bouger. Ils n'ont pas le droit d'intervenir non plus. Et donc si le défenseur est d'accord, accepte sa faute, et bien, le frisbee repart de l'endroit où le frisbee était au moment de la faute. Et si les deux joueurs ne se mettent pas d'accord, il n'y a pas d'animosité. Et par contre, le frisbee revient à la passe d'avant.
La passe précédente.
À la passe précédente.
Et alors, il y a un truc qui est chouette et qui va te plaire, David Dumont, et qui va vous plaire à tous. Et voilà, et David Fabien. C'est mixte.
C'est Fada qui est content.
Voilà, c'est un sport mixte, effectivement. Donc là, nous, ce week-end, nous partons à Pau au championnat, donc 4e division française. Et donc, c'est un sport mixte. Donc, nous jouons avec les filles, et c'est un grand plaisir. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte une plus-value à ce sport.
Et qu'est-ce que je veux dire, quelle est la tenue de ceux qui jouent à ce jeu-là, les hommes et les femmes?
Pardon, j'ai pas.
La tenue, ouais. Les hommes sont en short et les femmes sont en jupe?
Non, c'est short pour tout le monde, tenue de sport traditionnelle, crampons à l'extérieur, voilà, et après des tenues traditionnelles. Il y a même des équipementiers, il y a deux équipementiers français qui sont spécialisés dans l'Ultimate Frisbee. Donc on a des tenues qui sont spécifiques chez nous, mais avec maillot, short assorti, enfin comme la plupart de tous les sports.
Et ça ressemble à quoi un frisbee de compète?
Alors un frisbee de compète, c'est un peu plus grand et un peu plus lourd qu'un frisbee traditionnel qu'on va trouver. Il fait 175 grammes et voilà, il est un peu plus gros que le frisbee qu'on va trouver chez Decathlon à la page. Quoique on en trouve aussi chez Decathlon, chez GoSport, chez Intersport, pour pas faire pub pour personne, enfin pour tout citer. Voilà, on commence maintenant à en trouver un petit peu chez tout le monde des frisbees de compétition. Quoi. Voilà.
En plastique.
En plastique, oui, un plastique assez rigide, enfin voilà, assez épais, mais voilà, il y a, mis à part qu'il est un peu plus lourd, il n'y a pas de grande différence avec le frisbee classique que tout le monde a l'habitude de lancer au bord de l'eau.
Alors, j'invite tout le monde à aller sur notre page Facebook, hein, où j'ai posté cet après-midi une vidéo, trouvée d'ailleurs sur le site de la Fédération de Frisbee, qui explique très très bien, qui est très bien faite, un peu longue peut-être, mais bon, il faut bien ça pour rencontrer ce sport, et qui explique très très bien les tenants, les aboutissants, les règles, tout ça. Et je pense qu'avec une vidéo comme ça à faire tourner, ben, vous allez avoir plein de gens qui vont avoir envie de venir jouer à l'Ultimate Frisbee. Hein.
On espère, en tout cas, nous, le club de la MJC de Rodez, on a déjà fait parvenir cette vidéo aux adhérents de la MJC de Rodez, au travers ces petits outils, effectivement, on espère qu'on va se développer le plus rapidement possible.
Mais et alors, juste une question, moi, ça fonctionne le côté, il n'y a pas d'arbitre, le côté gentleman, ça marche ou il y a des fois vraiment ça s'énerve un peu?
Non, ça marche réellement, même en championnat de France, en championnat du monde. Il y a vraiment les personnes qui viennent à l'Ultimate Frisbee sont vraiment dans une logique de fair play. Et si toutefois ça ne devait pas marcher, c'est-à-dire qu'un joueur devait avoir un comportement un peu déviant, à la fin de chaque match d'Ultimate Frisbee, il y a une ronde où chaque joueur sont intercalés, un joueur de chaque équipe, et les deux capitaines prennent la parole l'un après l'autre. Donc le capitaine qui a perdu, dans l'équipe qui a perdu, prend la parole en premier, le capitaine qui fait partie de l'équipe qui a gagné prend la parole en second. Et donc s'il y a eu des mauvais gestes ou un mauvais comportement, à ce moment-là, le capitaine de l'équipe adverse, ou même de sa propre équipe, dit vraiment à haute voix, devant tout le monde, on perce l'abcès. Et comme ça, voilà, c'est clair. Et après, on n'en parle vraiment plus du tout.
C'est marrant, ça fait partie des règles. Hein. C'est un sport de bavard, quoi. Hein. Vous n'arrêtez pas, parce que, par exemple, quand un joueur a le frisbee, celui qui vient en défense essayer de l'empêcher de lancer son frisbee dans une zone, il doit compter, il doit dire comptage, voilà. Je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis après, il compte 1, 2, 3, jusqu'à 10, comme ça. Et il faut qu'à 10, l'autre ait lancé le frisbee.
Exactement. En intérieur, c'est jusqu'à 8, et en extérieur, c'est jusqu'à 10. Donc, voilà, effectivement, on dit compter 1, 2, 3, 4, 5, et si à 10, le frisbee n'est pas parti, et hop, il y a turnover, donc le frisbee passe dans les mains de l'équipe qui défendait. Voilà, après, peut-être, je sais pas si c'est un sport de bavard.
C'est une blague. Mais c'est vrai que vous...
C'est effectivement un sport où on communique en tout cas, et ça se sent dans le respect des uns et des autres. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant, un sport intéressant par rapport à ça, quoi.
David?
Oui, vous débutez les compétitions donc en extérieur là ce week-end, Xavier, avec Ultima Rodez. Vous allez jouer entre guillemets où? Vous êtes ici à Rodez. Vous allez et c'est quoi vos objectifs de la saison?
Alors on va à Pau, donc là c'est pour le championnat régional. Donc nous nos objectifs de la saison c'était de monter de division, donc en phase indoor. Donc c'était quand on a joué en gymnase, donc là le championnat est terminé, donc on a réussi notre objectif puisque le club de la MJC de Rodez a fini deuxième, et donc ce sont les deux premiers qui montent. Donc nous montons avec le club d'Annecy. Et là on va à cette phase outdoor beaucoup plus détendue, puisque nos objectifs de l'année sont déjà réussis. Donc là nous allons jouer contre Pau, Tarbes, Toulouse, Bordeaux. Et donc là c'est la quatrième division française, donc il y a trois divisions nationales et une division régionale, et donc nous, étant donné que ce n'est que la deuxième année que nous faisons de la compétition, même si le club de la MJC de Rodez a déjà 7 ans, on joue dans le dernier niveau du championnat, donc championnat régional.
Voilà. Faire bonne figure ce week-end.
Et on espère, en tout cas, on descend à 13 rue Ténois, du côté de Pau, et on y va en tout cas avec un grand sourire et un grand plaisir.
Merci en tout cas Xavier Cottel de nous avoir permis de découvrir votre sport sur CFM Radio. Voilà, l'Ultimate Frisbee se joue à Rodez. J'espère qu'un de ces quatre, ça se jouera à Montauban. Pourquoi pas? On a une équipe déjà de football américain. Je crois qu'on a une équipe de Torbal ou quelque chose comme ça. Pourquoi nous n'aurions pas une équipe d'Ultimate Frisbee, hein?
Et ben, ce serait génial. Ça nous ferait des déplacements un peu moins loin.
Voilà. Allez, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.
Merci à vous. Au revoir.
Et l'info en plus, David Dumont.
Ah bah, je vais vous reparler des municipales, ça a été du sport hier soir de tous les côtés. Et des sportifs, il y en a de nombreux qui se sont présentés sur différentes listes municipales un peu partout en France. Alors je vous fais pas la totale, mais pour les plus connus, allez, Destin Croisé, Marie-Claire Restoux, championne de judo, médaillée olympique. Elle, élue au premier tour, elle est sur une liste en région parisienne, pas tête de liste, mais sur liste. Et elle, c'est bon, c'est passé ce week-end. C'est passé aussi pour Ludovic Julie, le joueur de football dont on avait parlé en Coupe de France. Eh bien, lui aussi a été élu dès le premier tour. Il est membre de la liste, hein. Et donc se retrouve du côté de à Limonest, hein, pour ceux qui savent où c'est. Parmi ceux qui sont un peu plus en difficulté, David Ginola, lui, il est du côté de Sainte-Maxime dans le sud de la France. Eh ben, il est éliminé. C'est pas plus compliqué. Il est éliminé dès le premier tour, David Ginola. liste d'hiver droite. Élimination aussi de Roxana Maracineanu, nageuse, qui était du côté de Clamart dans une liste PS éliminée. Et puis Papé Diouf, on a beaucoup parlé puisqu'il est candidat à Marseille, premier tour, éliminé. En ballotage, allez vite fait, on a un nageur, Frédéric Bousquet, bien connu, ex-compagnon de Laure Manaudou. Lui, c'est dans le secteur de Marseille. Steve Savidan, pour les amateurs de football, ancien grand attaquant du championnat de France de football. Il est à Angers, il est en ballotage. Et puis toujours foot, Guy Lacombe, entraîneur. Eh ben, sachez qu'il est présent sur une liste d'hiver droite du côté de Dinard et qui sera sur une liste présente au second tour.
Ok, merci pour cette info en plus. Il nous reste quoi, une petite minute avant d'atteindre les 18h et l'info région. Je rappelle qu'après, on s'intéressera au championnat de France de dameuses qui vont se dérouler le 27 et 28 mars à Peyragudes en Haute-Pyrénées. Vous savez, les dameuses, c'est ces espèces de gros engins qui vous permettent d'aller faire du ski le week-end sur de la belle neige bien dure. Eh oui, hein, Jean-Claude, toi tu fais du ski, mais Jean-Claude Vigroux et Jean-Claude Desfarges, tous les deux, vous êtes de grands skieurs. Hein.
Oh là, je vous dis pas, hein, c'est beau à voir.
Je préférais faire du outdoor.
Du quoi?
Je sais pas comment, c'est du outdoor, là, qui le champion de frisbee s'appelle outdoor, c'est ça?
Le outdoor, c'est un autre truc. Hein.
Non, ça.
Le outdoor, c'est ça. C'est la récompense, un peu comme.
C'est une autre compète, mais je crois pas que ce soit à peau. Ah.
C'est à poil.
Allez, la suite.
Ça marche.
Dans quelques petits instants, à tout de suite.
CFM. CFM.
Il est 18h. Il vous tarde de vous mettre au chaud? Trouvez la solution avec les maîtres du feu à Montauban. Les maîtres du feu, offrez-vous l'excellence.
CFM. Toute l'info Normandie-Pyrénées.
Bonsoir à tous. Les tractations pour la constitution des listes ont débuté au lendemain du premier tour des élections municipales. Les candidats ont jusqu'à demain 18h pour déposer leur liste pour le second tour. Pour rappel, Rodez, qui avait basculé à gauche en 2008, a accordé une large avance à son maire socialiste sortant, Christian Tessèdre, au premier tour. Fort de plus de 42%, il affrontera au second tour le député UMP Yves Sancy, plus de 29%. Une autre liste de gauche, celle du collectif citoyen dirigé par Bruno Berardi, a créé la surprise en récoltant plus de 13%. Il a la possibilité de se maintenir pour une triangulaire inédite. Tout reste ouvert à De Casseville, historiquement de gauche, sans étiquette politique. Le conseiller municipal sortant François Marty est arrivé en tête avec plus de 43%. Enfin, la seule et unique liste Front National en Aveyron est arrivée en quatrième position à De Casseville en recueillant 9,44%. À Montauban maintenant, Brigitte Barège en ballotage favorable. La maire UMP sortante arrive largement en tête du premier tour et devant son adversaire socialiste de 18 points. Les électeurs montalbanais voteront pour une triangulaire UMP, PS, PRG et Front National. Dans le reste de l'actualité, fin de 3 ans et demi de travaux, les élèves de l'école du quartier de Saint-Félix à Rodez ont une nouvelle école. École flambant neuve qui a le label haute qualité environnementale. Le château de Belcastel rouvre ses portes. Vous pourrez le visiter à partir de samedi prochain à 10h. La visite dure environ 1 heure. Enfin, le musée Soulages ouvrira ses portes le 31 mai prochain à Rodez, un musée entièrement dédié à l'œuvre de Pierre Soulages. Il abritera notamment la double donation du peintre consentie à la communauté d'agglomération du Grand Rodez et une exposition intitulée « Les Outres Noirs de Pierre Soulages, musée et fondation d'Europe ». Excellente fin de journée en CFM.
Le sport, tous les sports, CFM.
Allez, on va parler de Montauban, de l'USM. On va encenser notre équipe montalbanaise qui continue d'enchanter les supporters dans la cuvette de Sapiac. Dimanche après dimanche, samedi après samedi, week-end après week-end, match après match. Voilà, c'est les meilleurs, ils sont bons, c'est les verts et noirs. Voilà, c'est comme ça. Et on va en parler maintenant avec Jean-Claude Desfarges. Non, non, c'est pas ça, c'est pas maintenant. Si, si, c'est ça, c'est maintenant. Allez, c'est parti. C'est parti.
Il n'y avait pas que Montauban qui s'est illustré non, ce week-end.
Tu vois, je savais qu'il dirait ça. Parce qu'en fait, il n'est pas un supporter de Montauban, lui. Je ne sais plus quelle équipe il supporte. Je crois que c'est en Auvergne, quelque part par là. C'est quoi ton équipe ?
Un grand supporter de Montauban, j'ai un maillot chez moi.
Ah.
Non, mais Montauban...
il dort avec son maillot, d'ailleurs.
Montauban, il faut les laisser tranquilles. Parce que l'année dernière, on leur a porté la poisse. Ils ont pas pu monter. Ils ont fait toute la saison comme celle-ci. On a toujours été derrière eux, on leur a porté la guigne. Alors cette année, on va laisser tranquille jusqu'à la finale.
Tu vas supporter Rodez du coup, pour nous porter la guigne à nous.
Montauban a été gagné à Langon, alors 17 matchs, 17 victoires, 80 points au classement. Faites la différence, vous verrez que Montauban, cette année, c'est quelque chose. Hein. Et il y a nos petits ruténois qui sont les gagnés à Périgueux. Alors là, ça c'est l'exploit. On en a parlé la dernière fois avec David Dumont. J'aurais dit que s'ils voulaient se qualifier, il fallait absolument qu'ils fassent un résultat à Périgueux. Et ben ils l'ont fait. À la 83e minute, ils ont leur buteur qui a passé une pénalité. Alors le buteur du jour, c'est Boscus, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Ce gars, il a passé la pénalité qui ouvre les portes peut-être de la qualif à Rodez. Rodez qui est à... on va dire une victoire de la qualification, il peut même finir troisième si Montauban bat au dernier match l'équipe de Périgueux. Donc bravo Rodez, bien. Il y avait aussi un match à Valence d'Agen, toujours en Fédéral 1, qui a battu Agenmo par 39-3. Valence d'Agen sont quatrième. Je vais vous donner quelques résultats de Fédéral 2. Alors en Fédéral 2, Millau a battu Villefranche-Lauragais par 29-21. Millau est troisième de sa poule, toujours qualifié. Castelsarrasin est allé battre Libourne par 23-22. Castelsarrasin est troisième, toujours en passe de se qualifier. Et enfin, Gaillac a battu Noaforas, une entente de club du Pays Basque, par 37-10. Gaillac est, on va dire, qualifié. Carmaux en a pris une belle contre Saint-Sernin. Carmaux n'arrive pas à gagner un match, donc on s'y attend. Carmaux est dernier et puis il va descendre en honneur. Le Levezou Ségala, tiens, Levezou Ségala, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Ils ont perdu contre Cahors, qui on va dire en tête du championnat par 9-7. Le Levezou reste troisième et Cahors, bien sûr, caracole en tête de la Fédérale 3. Voilà pour le rugby de Fédéral. Mais allez Montauban quand même.
Merci Jean-Claude. Allez, on passe direct au résultat du foot locaux. Le RAF qui bat Marseille, c'est ça ?
Bien oui, c'était une journée de rattrapage en CFA, groupe C, et c'était match de gala à Polignon avec Rodez qui accueillait Marseille-Cotsola, pas l'OM. Mon ami David a eu peur. C'était Marseille-Cotsola. Et Marseille-Cotsola s'est fait battre par 3-2 avec un très beau match, un match
plein d'envie pour les ruthénois, des Marseillais qui ont un peu regardé jouer l'équipe ruthénoise. Et bon, tout s'est très bien passé jusque-là, sauf qu'à la fin du match, monsieur le président de Marseille Consola nous a fait un sketch en disant que les Marseillais n'étaient pas des voyous, n'étaient pas des truqueurs, parce qu'ils pensait que le public ruthénois avait insulté les joueurs marseillais, mais bon, c'est pas le public qui joue, ce sont les joueurs. Si l'équipe de Marseille n'a pas fait un grand match, tant pis pour eux.
Mais Jean-Claude, tu reconnais quand même que les supporters ruthénois ont peut-être pas dit que des mots doux aux joueurs et à l'entraîneur de Marseille Consola.
Ils les ont gentiment chambrés. Ouais, voilà. Ils les ont gentiment.
Voyous, voleurs.
Oui, voilà. Mais enfin, voyous, voleurs, je veux vous expliquer. Il faut demander quand même aux joueurs de Marseille de ramener les serviettes qu'ils ont empruntées par ignorance et sans le faire exprès de l'hôtel qui les a accueillis. Hein. Donc les Ruthénois se retrouvent à la deuxième place derrière Grenoble. Marseille Consola glisse à la quatrième place et il y aura un match très difficile. C'est le week-end prochain où les Ruthénois accueilleront sur le stade de Paul Lignon l'équipe du Pontet. Le Pontet qui est en milieu de tableau et qui a besoin de points. Tout le monde a besoin de points, soit pour monter, soit pour ne pas descendre et se maintenir. Donc un match difficile, et là, si Rodez remporte la victoire samedi prochain à Paul Lignon, eh bien on pourra dire qu'ils ont fait un grand pas, peut-être pas vers la montée, car Grenoble, eux, n'ont pas l'intention de perdre, mais il reste 7 matchs à jouer pour les Ruthénois, donc 4 à Paul Lignon et 3 à l'extérieur. Ah. Il y avait également les filles, voilà, les Raffettes, qui ont perdu le Nord à Arras. Elles se sont fait battre 1-0, et un but marqué dès le début de la rencontre, à la 7e minute, et elles n'ont pas su revenir malgré des positions ou de buts pratiquement seules devant les buts. Elles ont mis le ballon à côté. Ça fait partie du football. Mais les Ruthénoises glissent à la 10e place du classement. Il va falloir faire attention. Elles ont quand même un match de retard, il faut le dire, et il faudra faire attention de pas trop perdre de matchs, surtout à Rodez.
Ouais, alors le match de retard qu'elles ont, c'est contre Lyon, donc bon, à la limite, on va dire qu'il est déjà perdu. Pas trop l'être.
Merci David.
Non, mais voilà, le match qui est en retard, c'est un autre match de gala, certainement.
Oui, ça sera un match de gala, il va y avoir du monde, c'est dimanche prochain.
Tout à fait.
Hein, à 15h à Polignan.
Tout à fait.
Voilà pour le foot. Pas de trop bon ce week-end, il n'y avait pas de match du côté de la DHR de Montauban.
Alors, eh bien, on passe à l'handisport, si vous voulez le bien. On est d'accord, Jennings.
Ah ouais, je crois que Jennings, il a du résultat.
Ah, il y en a pas mal.
Il y aura Benjamin Louis en suivant au téléphone.
Et on commence par le rugby fauteuil avec malheureusement une défaite pour Montauban. C'est la deuxième en deux matchs. Et c'est à Perpignan cette fois-ci. Ils se sont pris une petite claque, 71 à 38 malheureusement.
Ouh, mais qu'est-ce qui se passe chez les Pandas?
Eh ben,
mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait deux matchs là.
Les bambous qui sont pas frais.
Oh là là. Non mais qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, j'ai une explication à ça. Cahors, contre qui ils avaient perdu il y a 3 semaines, il y a 15 jours même. Ben c'était un candidat pour le podium. Et là ils ont joué contre le premier du classement complètement.
Ah,
et
d'accord.
En plus Perpignan, c'est l'équipe, je vous rappelle, que je vous parle depuis le début de saison, où ils mettent des toiles à tout le monde, genre 100 points. Donc bon, on s'en sort pas trop mal. D'autant qu'en plus Montauban avait pas mal entamé le match. Ils ont mis un essai dans les premières minutes. Malheureusement, les Perpignanais sont revenus de suite. On a cru que les Montalbanais pouvaient ensuite l'arracher et tout, mais pareil, ils se font prendre un essai avant la pause. Ils mènent 25-22 à la pause malgré tout. Puis alors, en deuxième période, ça a été
le coup de bambou.
Ouais, ben c'est ça, t'as tout compris, voilà. Et là, ils n'ont pas pu s'en relever, là, par contre. Ça leur a fait trop mal.
Quels autres résultats? Les pauvres pandas, on les suit on les soutient, évidemment.
Eh ben.
Parce qu'après, ils vont te dire le bon bout. Non, mais c'est nul.
Voilà. Vous êtes à fond, là, ce soir. Ouh là là. Et ben, un petit œil sur le classement. Montauban reste quand même deuxième derrière Perpignan. Et reste devant Anglet, qui est le prochain adversaire. C'est-à-dire que là, il va falloir s'imposer, parce que si Anglet s'impose, c'est Anglet qui passe devant Montauban. Et malheureusement, c'est les deux premières places qui sont qualificatives pour les quarts de finale. Donc, c'est quand même assez important de s'imposer contre eux dans 3 semaines. Et en basket fauteuil, en National 2, un petit mot de Caussade qui s'impose à Auch contre le club de Pavie 51-37. Les Caussadeux restent en tête de leur poule juste devant l'ASBH Béarnais et en plus ils ont deux matchs en plus donc c'est encore chaud quand même. L'ASMIS Toulouse c'est le troisième club qui complète le podium et Toulouse c'est pas mal dans cette poule. Et puis en National A aussi il y a le premier club de Toulouse et là par contre il s'est pris une belle raclée aussi à l'extérieur tout comme Bordeaux donc les deux clubs du Sud-Ouest sont pas trop à l'honneur ce week-end et quand même Bordeaux et Toulouse restent à la 4ème et 5ème place, ça risque d'être une fin de saison un peu en roue libre pour les deux clubs.
On accueille Benjamin au téléphone. Salut Benjamin.
Oui, bonsoir à tous.
Comment ça va?
Bah ça va très bien, ça a été un peu dur après le retour mais
le retour de Sochi.
Voilà, on commence à s'y faire et ce soir premier entraînement, je retourne à l'entraînement de Sochi Foot, donc ça va faire du bien.
Quelques résultats, puis tu nous diras où en est ton équipe dans le CC Foot, justement.
Voilà. C'est vrai que je vois qu'en basket fauteuil, les résultats sont plutôt serrés. Et c'est vrai que c'est également le cas en National 1, en fait. Parce que ce week-end, moi, j'ai assisté au match de Capsa Paris, en fait, et ils étaient dans l'obligation de gagner. Parce qu'ils jouaient leur survie et ils ont gagné et le week-end prochain il y a vraiment deux gros matchs à distance en fait Capsa Paris ils sont 10e au classement donc dernier ils sont dans l'obligation de gagner et ils jouent contre le Canet qui est premier et pareil le Canet doit absolument gagner parce que ils sont au même nombre de points que hier qui est deuxième bien sûr et hier en fait joue contre Strasbourg qui lui est également 9e et qui joue aussi sa survie donc ça va être deux gros matchs et ça va être je pense assez sensationnel et moi je vais aller voir Paris samedi soir donc j'espère assister à un très beau match donc à suivre. Sinon au niveau du ski donc effectivement on est revenu des Jeux paralympiques et c'est pas fini parce que cette semaine c'est les championnats de France de ski alpin donc à Oron. Donc Oron c'est dans les montagnes du Mercantour dans le 06. Donc aujourd'hui c'était le Super G. Il y a un Français qui de l'équipe de France qui s'est illustré, donc c'est Johan Taberlé en ski assis qui a eu le titre de champion de France. Donc ça doit lui faire du bien après Sochi où il était on va dire je pense très déçu parce que à part une 4e place lors de la dernière épreuve, ça s'était plutôt mal passé. Donc ça fait du bien moral pour lui pour cette dernière semaine de ski de la saison. Voilà pour les principaux résultats.
Alors et parle-nous de ton équipe de CC Foot. Donc tu reprends l'entraînement ce soir. Rappelle-nous un petit peu dans quelle catégorie tu joues et quels sont les enjeux là pour toi à cette étape de la saison.
Alors donc moi je joue en catégorie malvoyant. Donc il y a les non-voyants et les malvoyants. Donc moi je joue en malvoyant. Dans deux semaines on a la phase finale du championnat de France qui commence. Ça se joue à Bourges, deux semaines de préparation. Et les enjeux, en fait, cette année, on recommence tout de zéro. En fait, il y a une refonte des divisions. Donc là, ça va être pour savoir qui sera en première et en deuxième division. Sachant que cette année, on a loupé le coche de peu pour être dans la poule du titre. Donc nous, on sera dans la poule intermédiaire. Donc on va jouer notre place en première ou deuxième division. Donc il y a quand même un gros enjeu. À voir comment ça va se passer, mais qu'il y a la phase aller de la phase finale dans deux semaines. Donc le but ça sera donc il y a quatre équipes dans la poule, donc ça va être si possible de faire trois victoires. Après on verra bien ce qu'il en sera, mais sachant qu'on va affronter l'autre équipe du club. Donc ça va être assez coriace parce que il y a quand même
Il y a du boulot quoi.
De quoi?
Il y a du boulot, je dis simplement. Voilà, il faudra.
Exactement, il y a du boulot.
Il faudra pas rater les entraînements. Merci Benjamin d'avoir été avec nous encore une fois. On te retrouve sur internet, sur ta page Facebook que je vais copier-coller là de suite, tiens, sur celle de CFM pour rappeler aux auditeurs qu'il faut aller liker Cœur Handisport. C'est ta page Facebook sur laquelle tu fais la promotion de l'handisport. Merci à toi.
Merci bien, bonne soirée.
Salut. Est-ce que c'est pas l'heure de la pub ?
Si, monsieur.
Alors, c'est l'heure de la pub, on fait la pub.
CFM à Villefranche, 90.2.
Psst, vous voulez un secret pour vendre facilement vos jeux vidéo, votre matériel informatique, vos bijoux, bref, convertir tous vos objets en cash ? Eh bien, approchez-vous, là, près du poste. Ça y est ?
Allez dans le magasin Cash Converters qui vient d'ouvrir près de chez vous. Ils convertissent tous vos objets.
En cash !
Ah, oui. Cash Converters convertit tous vos objets.
En cash !
Soyez prêts. Le 19 mars, c'est l'ouverture aux achats de votre nouveau magasin Cash Converters à Montauban. Galerie marchande Auchan, face au parking. Ouvert de 9h30 à 19h30 sans interruption.
Le 29 mars, au magasin Décathlon de Montauban, venez participer au Full Kalenji de 9h à 17h. Le matin, petit déjeuner suivi des courses non compétitives de 5 et 10 km. Prenez le départ de votre magasin Décathlon, zone Elba Sud à Montauban, et au retour, des ateliers d'entraînement, d'échauffement, d'hydratation et de nutrition vous attendent. L'après-midi, parcours d'initiation à l'athlétisme pour les enfants, mais aussi tous les ateliers de la matinée. Débutants ou confirmés, participez au Full Kalenji de Décathlon Montauban et gagnez de nombreuses surprises.
Avec CFM, partenaire de Cap Cinéma Montauban, les Balèzes invitent au cinéma. La danse invite dans votre Cap Cinéma qui vous fait vivre en direct les émotions des plus grands ballets. Cap Cinéma Multiplex, la passion sur grand écran, zone Futuropôle à Montauban. Info sur cap-ciné.fr.
Dimanche 30 mars à 17h, l'âge d'or de Youri Grigorovitch. En 1923, dans une ville balnéaire du sud de l'Union soviétique, où commerce et mafia sont florissants, Boris tombe amoureux de Rita, danseuse du cabaret L'âge d'or et amie du gangster local.
Programmation de folie, du 3 au 6 avril à Gaillac, avec les petits bouchons, Julien Doré, la rue Quétanon, le bar à Yves Jamais, ou Maxime Le Forestier, et de très bons artistes découvertes. Les petits bouchons, ce sont aussi des concerts gratuits dans les vignobles et les lieux remarquables du pays gaillacois, avec Hervé Suhubiette ou Tomislav. Le festival à ne pas manquer, c'est les petits bouchons du 3 au 6 avril à Gaillac. Renseignements sur lespetitsbouchons.net.
CFM à Moissac, 90.7.
Alors, lundi sport, la suite, monsieur, dame, on va s'intéresser à un drôle de championnat. Figurez-vous qu'à Peyragudes, ce week-end, il va y avoir de la grosse machine qui va vrombir en face de d'autres grosses machines. David Dumont, tu nous présentes ce championnat de France des dameuses ?
Bah oui, championnat de France des dameuses, vous l'avez bien entendu. Alors, c'est pas ce week-end, hein, c'est en fin de semaine, ça commence le 26, donc mercredi. Mercredi et jeudi, du côté de Peyragudes, c'est le challenge Piston Bully. Le Piston Bully, ça va être le nom du constructeur de ces grosses machines que tout le monde connaît, enfin, pour la plupart, pour les avoir croisées sur les pistes ou bien à la télévision, pourquoi pas. Alors, on n'imaginait pas qu'on puisse faire des compétitions avec ces engins, ces machines-outils d'une certaine façon. Bah, eux aussi, ils l'ont fait. Ce sont les meilleurs pilotes, je crois, qui vont se retrouver cette semaine à Peyragudes. On va en parler avec Sylvie Lebail-Neymoz, qui est responsable com et animation de la station de Peyragudes. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est pas une blague, il y a bien un championnat de France de dameuses mercredi et jeudi.
Il y a un championnat de France de dameuses mercredi et jeudi, et ce championnat est récurrent puisque ça a lieu tous les ans dans une station différente de France. Et le parrain cette année, Luc Alphand, le champion de ski.
Oui, tout à fait. Alors, Sylvie, première question. Dameuse, on voit très bien ce que c'est, mais alors une compétition de dameuse, là, je vous avoue...
Alors, en fait, donc les meilleurs dameurs de toutes les stations, il y a une centaine de compétiteurs qui représentent 50 stations françaises et andorranes. Et alors, en fait, ça consiste tout simplement, ils viennent s'affronter, c'est dans des épreuves de précision, mais aussi des épreuves de ski alpin et de ski de fond, à tour de rôle chaque année dans une station, et on élit ainsi la meilleure équipe de damage de la station. Ce n'est pas anodin, puisqu'à la clé, il y a une dameuse qui est mise à disposition de la station gagnante pendant un mois.
Ouais. Alors rassurez-moi, on est sur un championnat de dameuses et il s'agit de la dextérité de pilotage aux dameuses, mais il n'y a pas de rapidité là, il n'y a pas d'épreuve, on fait
alors,
pas la course quoi.
Il n'y a pas d'épreuve de rapidité, absolument pas. Ce sont la majorité des épreuves, ce sont des épreuves de précision. Donc il y a plusieurs parcours où ben voilà, il faut passer au plus près d'une bosse ou s'approcher d'un point le plus près possible. En fait, ce sont vraiment que des épreuves de précision. Ouais,
ça me rappelle ce qu'on a par chez nous. On a des championnats de France de labour l'été. Et les gars sur leur tracteur, ils doivent manipuler leur machine. Voilà, c'est ça, hein, c'est le même principe, quoi.
C'est tout à fait la même chose. Voilà, c'est le même principe. Bon, ça leur permet aussi de se rencontrer et de parler aussi un peu de boulot, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment de la précision, donc c'est très spectaculaire, mais sans aucun danger, bien sûr. Cela a lieu sur une partie de piste réservée en face du restaurant d'altitude, et bien sûr, accessible au public sans aucune contrainte.
Alors, on aurait aimé avoir un coureur, mais on n'a pas réussi à joindre un des participants pour qu'il nous raconte un petit peu comment c'est à l'intérieur d'une dameuse et comment ça marche. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu l'intérieur de ces machines, Jean-Claude Vigroux ou Jean-Claude Desfarges, vous avez déjà vu ça?
Pas du tout.
Ah, moi, j'ai vu des dameuses en Auvergne, mais les gens qui montent dedans, qui s'en servent, non.
Bon, c'est tout simple, le tableau de bord d'une dameuse ressemble à un tableau de bord d'engin très sophistiqué, bien sûr. Nous, sur Péragude, on en a même une qui est équipée d'un radar qui mesure la hauteur de neige et qui permet ensuite de donner ses infos pour fabriquer de la neige uniquement aux endroits où il en manque. Donc c'est très très sophistiqué. Il faut savoir qu'une dameuse, ça coûte entre 300 et 400 000 euros. Mais c'est des engins indispensables pour l'entretien des pistes. Donc sur Péragude, on a 7 dameuses qui tournent à tour de rôle et qui permettent d'offrir un système de pistes toute lisse. Et on a aussi une autre dameuse qui est équipée d'une cabine de 18 places ouverte au public, sur réservation. On peut faire un tour de dameuse, travailler avec le dameur, découvrir le métier de dameur. Pendant une heure, on se promène sur les pistes avec la dameuse et on redescend au point de départ et ça a lieu à la tombée de la nuit. C'est assez magique comme système.
Alors, vous l'avez dit, hein, c'est les stations de ski, finalement, qui sont en compétition. C'est pas vraiment les pilotes eux-mêmes, hein, c'est ça?
Alors, bien sûr que ce sont les équipes de pilotes de dameurs, ce sont les dameurs de chaque station qui viennent. Bon, après, il y a 2 dameurs qui représentent chaque station. Donc, ça fait 50 stations qui s'affrontent cette année sur les pistes de Péragude.
Il est bon, votre dameur, à Péragude? Vous avez un champion ou pas?
L'an dernier, ils ont fini second.
Ah,
sur,
pas mal.
Sur 50 stations françaises, c'est pas mal, oui.
Donc, en jouant à domicile, là, ils ont pu s'entraîner, ils vont finir premier, là, il n'y a pas besoin.
Et on espère bien qu'ils seront sur la première marche du podium. On vous dira ça. Ben on vous dira ça jeudi soir. Hein.
Et est-ce qu'il y a du public qui vient sur ce genre de manifestation?
Oui.
Ouais.
Oui, parce que c'est quelque chose d'assez original, assez spectaculaire, et comme c'est relativement accessible, puisqu'on peut accéder au lieu des compétitions par des pistes bleues, rouges ou vertes. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde et le public vient nombreux pour assister à ce genre d'événement.
Et comment la neige là à Péragude?
Ben là on a une chance énorme, c'est qu'on a une petite couche de poudreuse qui est tombée depuis 2 jours. Là aujourd'hui on a eu grand beau. Donc finalement on finit la saison avec 1,22 m de neige en pied de piste, 1,80 m en haut et une qualité de neige assez exceptionnelle pour la période.
Rémi?
Oui, Jean-Claude?
Poser une question à la dame. Est-ce qu'il y a la parité aussi sur les dameuses? Est-ce qu'il y a des femmes qui les conduisent?
Alors, chez nous, à Péragude, on n'a pas de filles, mais la station voisine Superbannière a des filles. Et bien sûr que sur la compétition, on pense bien qu'il y aura quelques filles qui viendront s'affronter à ce milieu qui est relativement masculin tout de même. Mais ça s'ouvre pas mal, comme le métier de pisteur-secouriste d'ailleurs, maintenant à l'agence féminine, effectivement.
Ah ben voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter le championnat de France de dameuse. Alors c'est pas ce week-end, hein, donc c'est le 27 et 28 mars, c'est la semaine prochaine. Et ce week-end, il y a quoi à Péragude?
Non, non, Rémi.
Quoi?
C'est là, là. C'est,
alors,
c'est
mercredi.
Ah non, c'est ce, c'est là. C'est
mercredi, jeudi.
Mais quel jour on est? Le 24. Mais ça va pas du tout.
Je suis perdu.
Oh là là, mais c'est déjà le printemps. Il y a des giboulées? Pardon, donc c'est avant le week-end. Et après le week-end?
Sachant que le week-end prochain, le 29 et 30 mars, on accueille aussi les championnats des Pyrénées de snowboard cross. Donc en fait, il y aura un border cross où une soixantaine de compétiteurs pyrénéens, qu'ils soient français, espagnols ou andorrans, viendront s'affronter sur un border cross assez spectaculaire aussi. Donc on finit la saison avec pas mal de compétitions.
Merci encore une fois Sylvie Lebeil-Nemoz. Je l'ai dit correctement?
Avec plaisir.
Merci à vous.
Correctement.
Au revoir.
Au revoir.
une fois qu'on a un tout petit peu d'avance, vous auriez pas envie d'écouter de la musique ?
Oh bah avec plaisir.
Chiche.
Hein ? On pourrait s'écouter, je sais pas, tiens, c'est pour couper l'herbe sous les pieds à Fada, qui va sans doute en passer ce soir dans son émission Sport on the Rock, puisque j'ai vu le teaser tourner sur Facebook toute la journée. Un teaser avec un groupe qui a marqué les esprits et les tympans au Rio Grande.
Ah ouais, les tympans carrément.
Ce week-end, et Fada y était dans le public. On pourrait se passer juste un petit bout de nos amis de Bideki. Fada, tu nous les présentes ?
De Sidi Larsen.
Ça fait du bien.
Comment il l'a trouvé ce concert, Fada, vendredi soir au Rio ?
Ah, il s'est régalé, comme à chaque fois au Rio. D'ailleurs, je tiens à féliciter le Rio Grande, en l'occurrence, les trois concerts faits chaque fois là-bas dans cette salle. Et un accueil tout le temps adorable, super, bravo. Et dédicace au plus montalbanais de tous les Aveyronnais. Aurélien, je te fais un bisou et merci pour le boulot que tu fais.
Ah oui, j'ai vu un selfie avec...
Il était tard, dis donc.
Le selfie nocturne de Fada et Aurélien, c'était quelque chose.
Et tu mènerais deux avec un show, c'est pas mal, ouais.
C'est l'heure de l'agenda.
C'est un peu secret.
Ah oui.
L'agenda.
J'en profite du coup un petit peu de temps. Je vais faire un bisou à Gretchen, à Marie et à Julie qui nous ont accompagnés cette soirée.
Garde la parole pour l'agenda.
Allez, l'agenda. Donc, quart de finale de Coupe de France. Dès demain, Moulins face à Angers. Mercredi, nous aurons une affiche Monaco face à Lens. Cannes-Guingamp à notre opposition et Rennes-Lille, un derby de Ligue 1. On va noter également, toujours en football, que donc Jean-Claude l'a annoncé tout à l'heure, le Rodez Aveyron Football reçoit samedi Le Pontet, match très important. Donc vous avez été nombreux à venir contre Marseille contre Sola. Eh bien, on vous invite à faire de même, de revenir également nombreux, donc 20h à Polignon pour le RAF face au Pontet. Et on va noter la grosse affiche du week-end en Ligue 1, ça sera un petit derby, ça sera Lyon face à Saint-Etienne.
Et un basket fauteuil, là c'est au mois de juin prochain, mais il y aura à Toronto, il y aura le championnat du monde de basket féminin avec l'équipe de France. L'équipe de France, le tirage au sort a été effectué et ils affronteront les Pays-Bas, les États-Unis, le Mexique et le Pérou. Et à noter qu'en équipe de France, on a une joueuse à Caussade qui peut être sélectionné, donc faudra suivre ça de très près.
Ah bah tu nous en donneras des nouvelles. En rugby, Jean-Claude Desfarges.
Oui, en rugby, écoute, c'est la 23e journée avec des chocs un peu partout en top 14. Les Coujoux de Brive reçoivent les Auvergnats de Clermont. Toulouse va affronter les Toulonnais à Mayol, tout en rouge et noir. Ça va être chaud, chaud, chaud. Et il y a un derby parisien entre le Stade Français et le Racing Métro. En Pro D2, je vous conseille deux matchs. Si vous allez manger des pruneaux, allez voir Agenpo. Et si vous allez prendre le bain du côté de Narbonne, il y a Narbonne-Albi. Je voudrais faire une petite annonce aussi pour Jennings. Le 12 avril, au Stadium d'Albi, avant le match Albi-Hoche, il y a les rencontres du sport et du handicap au Stadium d'Albi de 12h à 18h avec des stands associatifs, des rencontres sportives et plein de choses. Le logo de l'annonce de cette journée du 12 avril, c'est « Ensemble, invalides et valides, créons des liens pour le sport ».
Eh ben, merci pour l'info. Je vais voir comment je peux faire pour y aller.
Allez, reporter pour CFM.
Voilà.
Voilà. Jennings en reporter, ça marche. Qu'est-ce qu'il nous reste
à annoncer ? Tout le monde à partir de 17h, mais à partir de 12h, c'est ouvert uniquement aux sportifs du sport des valides et des invalides.
On a fini ?
Eh ben, je crois bien. Eh ben, voilà. On va se retrouver la semaine prochaine.
C'était l'indice sport, il est l'or.
Allez, à lundi prochain, les gars. Salut.
Bonsoir tout le monde.
Michias.
TFM, il est 18h30.